La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, l'enclave rebelle de la ville d'Alep est sur le point de s'effondrer.
Oui, elle se prénomme Bana. Elle a 7 ans et depuis plus de 2 mois, rappelle le site de la chaîne américaine CNN, elle raconte via le compte Twitter de sa mère son quotidien à Alep. Dimanche matin, sous un déluge de feu, et tandis que les troupes du régime de Bachar el-Assad resserraient un peu plus encore leur étau autour de la zone tenue par les rebelles, elle a posté ces mots. L'armée est entrée, c'est peut-être sincèrement le dernier jour où nous pouvons nous parler, s'il vous plaît, priez pour nous. Une heure plus tard, Bana lancera encore un nouveau message qu'elle imagine alors être le dernier. Nous sommes sous des bombardements nourris, dit-elle, nous ne pourrons pas rester en vie. Quand nous serons morts, continuez à parler pour les 200 000 personnes qui sont toujours à l'intérieur. Plus tard, sa mère diffusera finalement une photo de sa fille recouverte de poussière, manifestement sortie de justesse de chez elle en plein bombardement. Viendront ensuite ses derniers mots. Ce soir, nous n'avons plus de maison. Elle a été bombardée. Je me suis retrouvé dans les décombres. J'ai vu des morts et j'ai failli mourir. Interrogée au début du mois par The Sunday Times sur le sort des enfants syriens, le président Bachar el-Assad avait rejeté la faute sur, je cite, les terroristes qui, disait-il, utilisent des civils comme boucliers humains avant de préciser que lui-même dormait bien. Et depuis hier, on imagine que le bourreau de Damas non seulement dort toujours aussi bien, mais qu'il a même le sourire. En quelques heures, la bataille d'Alep s'est en effet accélérée et pour les partisans du régime syrien, c'est désormais une quasi-certitude. La chute des quartiers rebelles se rapproche. L'offensive a été menée simultanément des deux côtés de l'enclave, précise le Temps, la sectionnant au nord de la vieille ville d'Alep, comme l'aurait fait une tenaille. Une fois les premiers verrous levés, les assaillants se sont répandus dans toute la partie nord de l'enclave, tombés comme un fruit mûr, à en croire la télévision d'État syrienne. Aux côtés des unités d'élite de l'armée, les alliés du président syrien Bachar el-Assad avaient pour cela regroupé des milliers de combattants chiites, pro-iraniens, notamment du Hezbollah libanais, mais aussi des milices composées d'Irakiens, d'Afghans ou de factions palestiniennes établies en Syrie. En 48 heures, les rebelles ont ainsi perdu le tiers d'Alep Est, peut-on lire dans les colonnes du journal de Beyrouth, L'Orient le Jour. Et face à la violence de ces combats, d'importants mouvements de civils ont lieu désormais à l'intérieur de la zone assiégée. Depuis samedi, on estime que près de 10 000 personnes ont fui, soit vers les quartiers kurdes, soit vers les zones gouvernementales. Sur la chaîne du Hezbollah libanais, Al-Manar notamment, on peut voir ses habitants par dizaines, infirmes, femmes, enfants, en train de quitter certaines zones sous l'escorte de soldats, tandis que le bruit des canons rappelle la proximité des combats. Les médias d'État syriens, eux aussi, ne manquent pas de donner à voir ces habitants dirigés par des militaires, tout en précisant sans plus de détails, qu'ils sont conduits vers des lieux sûrs. On y voit l'accueil impeccable réservé à ces civils une fois arrivés à Alep Ouest. En réalité, la plupart des Alepins désireux aujourd'hui d'échapper à l'enfer des bombardements savent qu'ils n'ont aucune garantie à attendre du régime et en particulier qu'ils seront très certainement soumis à un interrogatoire des services de renseignement militaire. Des informations non confirmées évoquent déjà une séparation immédiate des hommes âgés de plus de 15 ans au sein de ces groupes conduits en zone gouvernementale. Désormais, tout le monde s'attend donc à ce que les forces du régime lancent une ultime offensive près de la citadelle pour couper de nouveau la zone en deux, précise un expert au Washington Institute, ce qui signifie qu'au terme de ces mouvements de cisaille, il ne restera plus qu'une dernière poche d'insurgés. Les hommes armés devront alors se rendre ou accepter la réconciliation nationale, selon les termes fixés par l'État syrien. C'est d'ailleurs le sens aussi des messages que l'on pouvait lire encore récemment sur les tracts lancés à destination des rebelles. Sur l'une de ces brochures, raconte ce matin The New York Times, on peut lire ceci. Ne soyez pas stupides, pensez à vous et à vos familles, mais pensez vite car le temps passe et il n'est pas de votre côté. Rendez-vous ou affrontez la mort.
Et face à l'évolution des combats, Thomas Cluzel, ces derniers jours, la communauté internationale garde le silence.
Oui, à l'exception hier du ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, lequel a réclamé un cessez-le-feu immédiat à Alep. Le silence de la communauté internationale est assourdissant, de sorte qu'à Alep, aujourd'hui, règne la certitude que tout espoir s'est évanoui. Personne ne viendra à l'aide des Syriens d'Alep et c'est très probable cette certitude-là qui explique pourquoi l'enclave assiégée est aujourd'hui en train de tomber comme un château de cartes presque sans résistance. Et pourtant, note le Temps, on pourra tourner l'affaire dans tous les sens en laissant de côté les assassins directs, le régime syrien, la Russie, l'Iran ou bien encore leurs acolytes ennemis sunnites, pays du Golfe en tête. C'est bien l'Occident qui a laissé cette situation devenir ce qu'elle est. Et le journal encore d'ajouter, il y avait le fracas des bombes, cette angoisse intenable, cette frayeur qui n'a aucune sorte d'équivalent possible, celle de voir les siens emporter volonté d'être le prochain à assister au déblaiement des décombres, d'où l'on voit émerger un pied, puis la tête bleuie de son enfant mort. Il y a désormais l'élection d'un certain Donald Trump aux États-Unis, peut-être demain celle de François Fillon ou Marine Le Pen en France. Il y a maintenant cette peur paranoïaque de l'Occident à l'égard de tout ce qui ressemble à un musulman, inventorié comme djihadiste potentiel, fut-il en détresse au milieu de la Méditerranée ou mourant sous les bombes dans les quartiers de l'Est d'Alep.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, une chronique à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr.